Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h07 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct avec Simon Dutin, Alison Pinot, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski ce matin. Les grandes gueules du sport, vous pouvez également, vous le savez, en podcast, vous pouvez retrouver notre débat autour de Pogacar et de sa domination sur le Tour de France dès maintenant sur l'appli RMC notamment. On va reparler de la grande boucle d'ailleurs dans une heure avec cette question autour des Français. Est-ce qu'on peut se contenter des performances françaises actuelles, Kevin Vauclin notamment, 6e du classement général. Et puis à 10h45, un moment important, les grandes gueules qui prennent le contrôle de l'émission, les GG contre-attaque, c'est le moment de nous proposer vos sujets, les GG. Juste petite précision, Alison Pinot est exemptée ce matin parce qu'on est sympa.
Rookie, je suis la rookie aujourd'hui.
Mais demain, voilà, comme ça tu vas voir comment ça se passe et comment il faut faire surtout pour ne pas gagner une contre-attaque. Parce que c'est l'objectif des GG. Écoute par exemple Julia Beneteau, voilà. Comment on fait pour ne pas gagner une contre-attaque. On t'écoute.
Il a des questions pourries, c'est pour ça.
Mais exactement, des sujets pourris, trop pointus en fait. Je suis pas comme les autres qui prennent le
foot à chaque fois.
Non, mais voilà, les autres prennent le foot à chaque fois pour gagner, alors que moi.
Le foot ne gagne jamais, Julien.
Non, là, je prends Fabien Galthié, c'est d'actualité, ils sont en train de jouer. Et dans la semaine, il a fait une petite sortie sur l'arbitrage, comme il avait fait avant le match de l'Irlande pendant le tournoi Destination, où il a demandé aux arbitres une neutralité et d'être arbitré comme une grande nation, enfin, comme l'équipe de France, et pas comme une petite nation. Et je trouve sa manière de communiquer, moi, ça me plaît, cette petite mise de pression très subtile. Voilà. Est-ce que vous, ça vous agace? Subtil. Non, mais est-ce que vous, la manière dont il le fait, je trouve que c'est intelligent. Mais est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous êtes contre ça? Voilà. Venez en débattre avec nous.
Tu fais un teasing d'un débat ou?
Ouais,
parce qu'on dirait
que c'est quoi le. Question,
Mais si, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas?
J'ai jamais compris le principe de la contre-attaque.
Tiens, Sarah, peut-être que tu vas lui apprendre ce que c'est qu'une contre-attaque.
Vous m'embêtez.
On t'écoute, Sarah.
Alors, moi, je vais vous parler de Kylian Mbappé.
Ah bah, alors ça, c'est la blague.
Ça ne gagne jamais.
Pourquoi c'est la blague? Il y a bien un moment où il faut essayer de gagner
fois,
quand même.
Faire un débat sur Kylian Mbappé, vous êtes là à dire arrêtez avec Kylian Mbappé.
Que Christophe Cessieux soit plus là.
Je suis l'incarnation des sujets réfléchis, posés, institutionnels. Je prends une volée de bois vert à chaque fois, ça n'intéresse pas. Donc là, je me suis dit, je vais prendre Mbappé, j'ai peut-être plus de chances de gagner.
Ah oui, c'est tactique. Alors on t'écoute.
Bah oui, c'est tactique. Et là, en l'occurrence, comme il est souvent dans l'actualité, pour autre chose que pour son foot, je vous le sers sur un plateau, puisque là, maintenant, on est en train de... En tout cas, il y a une enquête sur le fait que, eh bien, il reverse des primes, et ça, il le fait depuis très longtemps, ces primes en équipe de France, à diverses associations. Et là, on révèle qu'eh bien, il a versé des primes à des CRS et des policiers qui assurent la sécurité de l'équipe de France, et on veut savoir si les primes qu'il a versées, elles sont licites ou illicites. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur
elles sont licites de son côté ou de la part
illicites de la part de l'IGPN
si c'est choisi, tu vois, Alison, c'est ce qu'il ne faut pas faire, faire aussi long que Sarah Pitkowski.
Bon, ça
s'appelle un teasing,
un tunnel bartolesque, ça s'appelle.
Oh, la balle perdue. On embrasse Marion, évidemment. Simon Dutin.
Alors moi, ça risque de pas gagner non plus, mais on est en plein. On est en plein mercato de foot évidemment, et il y a à nouveau beaucoup d'offres qui viennent en provenance d'Arabie Saoudite pour certains des plus grands joueurs européens. On parle d'une offre de 350 millions d'euros pour Vinicius, le Brésilien, le coéquipier de Mbappé. On dit aussi que Alexander Isak, l'avancement suédois de Newcastle, aurait donné son accord pour que son club négocie pour un transfert. Là-bas, toujours plus d'argent à gagner pour eux. Pas grand-chose d'autre, à mon avis. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous attriste de voir ces joueurs partir en Arabie Saoudite? Ou est-ce que vous êtes partisan de cette fameuse universalisation du football?
Voilà, la question est posée. Vous avez trois bons débats. Alison, tu as le droit de voter.
Mais je vois que Simon, il veut gagner aujourd'hui. Mais on sent qu'il veut gagner.
Alors, c'est mal me connaître, ma chère Alison.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas gagner? Je le sens.
Votez pour Simon, parce qu'il n'a pas préparé ses arguments.
Vous allez sur le compte.
dès qu'il y a de l'argent, c'est des sujets souvent les gens ont envie de parler. Tu vois, ça donne envie de parler.
On commence à comprendre vraiment les GG contre-attaque. Vous allez voter sur le compte des grandes gueules du sport.
Moi, j'ai fait Mbappé et de l'argent.
Ouais, bon, là, ouais, mais c'est pas
c'est vraiment. C'est des donations. C'est petit, ça.
Résultat dans 30 minutes maintenant. Le rugby, c'est reparti entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Troisième match de la tournée des Bleus. Romain Asselin.
5 minutes de jeu en seconde période, les Bleus toujours devant 19-17, même si là il y a une séquence des Blacks à défendre devant la ligne pour l'équipe de France qui fait un match admirable pour l'instant, qui est à 35 minutes d'un exploit colossal. 16 ans que les Bleus n'ont pas gagné sur le sol néo-zélandais. On rappelle quand même pour la petite histoire qu'ils ont gagné la deuxième mi-temps lors du premier test il y a 15 jours et fait match nul lors du deuxième il y a une semaine malgré une large défaite. Donc il y a quand même de l'espoir pour les Bleus, même si là il va falloir défendre cette séquence. 19-17 pour l'instant pour les Bleus, la 46e.
Parfait, on suit cette rencontre et peut-être cet exploit au bout. Mais d'abord, dans les GG, petite leçon de psychologie ce matin. On va travailler l'estime de soi, tous ensemble.
RMC, le bras de fer GG.
Pourquoi ce besoin de reconnaissance est aussi important et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour satisfaire ce besoin de reconnaissance?
Et l'ouverture du score, Marie-Antoinette Katoto pour l'équipe de France. Oh, que c'est mérité!
J'ai besoin de reconnaissance. Je vais attendre que l'autre me donne de la reconnaissance.
On parle du football féminin, mais c'est dans l'intérêt du football français que cette équipe puisse être visible en prime time sur une grande chaîne comme France Télévisions.
Le besoin de reconnaissance, je crois qu'il nous touche tous. Le tout, c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour recevoir des signes de reconnaissance.
Quel but incroyable de Delphine Cascarino,
ben voilà,
exceptionnel, enfin. La victoire de l'équipe de France. Cette victoire, elle est largement méritée.
La seule véritable reconnaissance qui nous nourrit profondément, c'est la reconnaissance que nous-mêmes, nous nous donnons.
Bah, je pense que c'est très positif. Je pense qu'il faut prendre ça comme une très très bonne nouvelle pour le football féminin.
France-Allemagne, c'est ce soir 21h, quart de finale de l'Euro féminin. Les Bleus n'ont pas eu de chance puisque deux de leurs matchs du premier tour ont eu lieu en même temps que les matchs du PSG en Coupe du Monde des clubs. Il y a eu aussi ce changement de programmation qu'on avait commenté dans les grandes gueules du sport du groupe TF1 pour privilégier la finale PSG-Chelsea. Et puis plus globalement, sans Hervé Renard aux commandes, avec le départ de joueuses emblématiques, cet Euro n'a jusque-là pas été très mis en avant. Est-ce que les Bleus manquent de reconnaissance? C'est le thème du bras de fer. Dans la team, oui, elle manque de reconnaissance. Sarah Pitkowski et Alison Pinot. Dans la
comme
team,
c'est bizarre.
Non,
ouais, mais alors, voilà,
Simon Dutin et Julien
voilà,
Benneteau.
Bravo. Cliché, là, bravo, Sarah.
Bravo.
Je n'attendais pas moins de ta part.
Ça va être un beau départ. D'abord, on accueille Anthony Reich qui est en Suisse et qui va commenter la rencontre ce soir à 21h. Salut Anthony.
Salut les GG. Bonjour.
Salut Anthony.
Salut.
Depuis le début de l'Euro, en tout cas, cette équipe de France, elle montre un visage vraiment très plaisant.
Oui, tu l'as dit François, en phase de poule, l'équipe de France a marqué les esprits par son côté spectaculaire, des qualités individuelles comme celle de Sandy Baltimore ou Delphine Cascarino, mais aussi par sa force de caractère, comme face aux Pays-Bas lors du dernier match de groupe, la capitaine Grit Djembock-Baty.
On a montré aussi une force de caractère lors des matchs où on était mené. On peut renverser la tendance à tout moment et c'est aussi ce qui fait notre force. On peut même parler de supplément d'âme parce que on a un groupe qui est complet, qui aime jouer ensemble, ouais, qui peut surprendre à tout moment.
Avec 11 réalisations en 3 rencontres, les Bleus sont la 3e meilleure attaque de la compétition et avec un danger offensif qui peut venir un peu de partout puisque 9 joueuses ont marqué au moins une fois dans cet Euro. Pour Laurent Bonadei, le sélectionneur, c'est le moment de franchir un palier.
C'est vraiment le match idéal pour voir où on en est. J'ai beaucoup de confiance en elle pour réussir à franchir ce cap et d'être conquérante, déterminée pour faire en sorte qu'on n'ait pas de regrets quoi qu'il arrive et qu'on joue notre football.
Et signe de cet engouement nouveau, en tout cas ce retour d'engouement autour des Bleus, les places réouvertes aux supporters français pour le quart de finale ont été vendues en seulement 3 heures. Et puis, bonne nouvelle ce soir, tu l'as dit François, en prime time, elles n'auront plus le PSG et la Coupe du Monde des clubs en face d'elles. Peut-être qu'il y aura enfin une première belle audience.
Et ben ça c'est important, ça sera également à commenter demain. On en reparlera de cette équipe de France, mais on va en parler aujourd'hui avec vous. Je rappelle la question du bras de fer, est-ce que les Bleus manquent de reconnaissance pour l'instant sur le sondage sur le compte X des grandes gueules du sport? C'est la team oui, elle manque de reconnaissance qui est en avance 55% devant 45%. Elle ne manque pas de reconnaissance, donc Comme c'est d'habitude le cas, on donne la parole à ceux qui doivent rattraper au score. Qui veut parler? Julien,
c'est
comment? Simon,
ouais,
Julien.
Étonné que ce soit à nous de commencer. Bah, bon. Elles ne manquent pas de reconnaissance parce qu'elles ont là, pour jusqu'ici, la reconnaissance que leur performance mérite. Elles n'ont cessé de nous décevoir. On est obligé de le constater parce qu'il y a eu un narratif autour de cette équipe de France. On a essayé de la mettre en avant. On a essayé de nous dire qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et jusqu'à présent, et ça commence jusqu'à présent, ça fait une vingtaine d'années que ça dure. On n'a jamais fait mieux que quatrième en Coupe du Monde, que quatrième à l'Euro. Au Jeu de Paris 2024, on nous avait dit ça va être un tremplin. Elles sont à la maison. Bon, elles font sixième. C'est une des immenses déceptions de la délégation française. Je pense que elles sont à la place qu'elles méritent. Là où je peux infléchir mon propos, c'est que moi j'ai de l'espoir justement que cette nouvelle génération justement fasse mieux que la précédente. Anthony l'a rappelé, il y a une dilution des talents. On est un petit peu moins sur des figures de proue comme dans les années. Il y a eu Louise Anessib, Wendy Renard, Gaëtan Tinet, Eugénie Le Sommer. On a suffisamment parlé des choix de Bonadei, de se passer de certaines têtes d'affiche. Il est en train de réussir son pari parce qu'elles sont sur une série de matchs. Une série d'invincibilité qui est assez remarquable. Elles ont battu. Et tu sais, il faut de quel match de l'équipe de France féminine les gens se souviennent, les amoureux de foot. Donnez-moi un match référence qui est dans l'histoire du football. Il faut créer une histoire avec le public. Et par exemple, ce match d'ouverture face aux tenantes du titre, on l'a vécu ensemble, François, à RMC.
Ça, c'est l'Angleterre.
Bon, c'est absolument remarquable. Voilà, ça peut commencer à construire une histoire. Le retournement de situation face aux Pays-Bas, alors qu'elles sont menées et que finalement, elles sont menées 2-1 à la pause et finalement, elles s'imposent 5-2, avec, donc, Anthony l'a rappelé, beaucoup de, ou c'est le sélectionneur qui l'a rappelé, beaucoup de joueuses différentes qui peuvent mettre leur nom sur la feuille de score. Ça aussi, ça peut contribuer à créer une histoire
donc,
avec le public.
Plus de reconnaissance,
et puis,
Simon.
Elles mériteront peut-être, certainement, plus de reconnaissance après un tournoi réussi. Mais je veux dire, si ce soir elles prennent 3-0 contre l'Allemagne, on se dira, bon, ben voilà, comme d'hab, dès que l'altitude s'élève un petit peu, eh ben, elles sont pas au rendez-vous. Là où j'ai à nouveau de l'espoir, c'est que on peut pas leur jeter la pierre. C'est pas uniquement leur performance. Je pense que c'est aussi la visibilité du football féminin en général qui est de la mettre en cause. Et je pense que cet Euro en Suisse, de ce que j'en ai vu et lu, va dans le bon sens pour offrir plus de visibilité à d'autres, à toutes les nations et à la France en particulier, parce que les audiences sont en hausse, même si chez nous, on l'a dit, ça a été parasité par le PSG en face, tout ça. Les audiences, les stades sont quasiment à guichet fermé. Ils ont fait 22 matchs sur 24 à guichet fermé. Les gens en parlent. Sur les réseaux sociaux, il y a une activité croissante. Donc voilà, si elles se qualifient en demi ce soir et qu'elles vont peut-être au bout, elles auront la reconnaissance qu'elles méritent.
Toi, tu as dit qu'elles manquaient de reconnaissance.
Ouais, complètement. Parce que moi, j'ai cette sensation, c'est toujours... il faut attendre qu'il y ait un résultat pour qu'il y ait plus de visibilité, pour qu'on en parle un peu plus. C'est trop facile. C'est trop facile de dire... là, je veux dire, c'est le moment... bien sûr, il y a eu le parasite... j'adore mon PSG, donc c'est difficile de venir contrer ça. Mais la Coupe du Monde des clubs, ça a été un gros parasite pour cette compétition parce que finalement, elles font un très beau début de parcours. Ce match d'ouverture, il y a eu ce match contre le Pays-Bas, et finalement, il y a une énergie. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui est créé autour de cette équipe. Et finalement, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas assez mis en avant. Donc c'est toujours triste qu'il faut attendre le super grand résultat dans le féminin pour qu'il y ait une vague, pas d'émotion, je dirais, mais qu'on en parle un peu plus. Ah, les filles ont fait ça. Ah ça y est, on va. Je veux dire, l'épisode de retransmission, ça en dit quand même long. Ouais. Donc, on va pas accentuer et revenir dessus, mais c'est toujours le serpent qui se mord la queue en fait avec le sport féminin en général. C'est pas que le foot féminin, mais on a une belle compétition en Suisse. Tu l'as dit toi aussi, Simon, les stades.
T'avais toi, puisque tu as connu ça aussi, cette comparaison avec les garçons en handball. T'avais le même sentiment toi de ce manque de reconnaissance quand tu jouais à l'époque.
Ouais, complètement. Et on a pris un peu le truc différemment. Et ce qu'on a compris, c'est que si on voulait exister, il fallait malheureusement, c'est triste à dire, mais il fallait qu'on surperforme, c'est-à-dire surperformer. Il fallait faire des résultats constamment. Et même quand tu fais des résultats, tu te rends compte que finalement, l'impact, il n'est pas à la hauteur de l'exploit, mais des titres.
L'impact médiatique que vous avez à chaque fois que vous allez loin dans une compétition.
Oui, mais il faut qu'elle gagne.
Oui, mais les mecs au handball, les mecs quand ils perdent, alors c'est rare, mais quand ils perdent, en général, c'est au mois de janvier, quand ils perdent en quart.
Tu les suis plus quand même.
Tu les suis toi au début.
Oui, tu suis plus souvent l'équipe de France masculine. Même là, en l'occurrence, l'équipe de France. Si tu fais Euro avec l'équipe de France masculine, tu vas pas me dire qu'on n'en parle pas un peu plus quand même.
Ça, je suis d'accord. Mais la reconnaissance, ce qu'a dit Simon, c'est, la question, c'est est-ce qu'elles ont la reconnaissance?
Est-ce qu'elles manquent de reconnaissance?
Manque de reconnaissance. Ouais. Aujourd'hui, tu ouvres tu prends le journal L'Équipe, première page. Ce soir, TF1, prime time, 21h. Bon, médiatiquement.
Ouais, mais on doit souhaiter au plafond,
c'est non.
Que. Bah voilà. Non. Je veux dire, c'est toujours ça, c'est dire, faut qu'on soit satisfaite. On est sur TF1 21h. Wouh, super, c'est le quart de finale. Ah non, je suis désolée.
Mais non, mais pour l'instant, la reconnaissance du grand public, elles l'auront par les performances. Mais ça, c'est dans tous les sports, c'est tout le monde pareil. Les Français à Roland Garros, ils perdent au deuxième tour, ils ont zéro reconnaissance. Il y en a un qui fait quart de finale, il va avoir une reconnaissance incroyable. Un homme, je parle pas de femme ou de différence homme ou femme. C'est la loi du sport qui veut ça. Mmh. Et t'as raison, un euro masculin, mais ça c'est comment dire, la compétition en elle-même, comme elle est vendue par l'UEFA, comme elle est mise en avant, etc. Et ça fait plus longtemps qu'elle existe, va générer plus de comment dire de
ferveur, tu veux dire.
Voilà, de ferveur que l'euro féminin. Mais c'est pas parce que c'est un problème de comment dire de niveau de jeu, de c'est juste la compétition en elle-même, comment elle est vendue, comment elle est mise en avant, etc. Mais au fur et à mesure, effectivement, pour qu'elles deviennent des icônes, comment elles sont devenues des icônes aux États-Unis, les filles du soccer?
Parce qu'elles ont gagné.
Parce que voilà.
Oui, après,
parce
elles sont devenues championnes du monde.
Exactement.
Elles sont devenues championnes du monde en France en 2019.
Non. Bien avant. 80, bien avant.
Mais il y avait les JO.
Les JO
à Atlanta.
À Atlanta, elles ont gagné. Ouais. Et avant, en 80,
après,
elles ont gagné.
Et elles sont meilleures que leurs homologues. Mais tu peux pas te défaire.
Exactement. C'est parce que. Et donc, du coup, ça devient, comment dire, générationnel. Ça inspire des petites filles qui ont envie d'aller jouer au soccer plus que les garçons, etc. Oui, malheureusement.
Il y a des cultures suivant les pays aussi.
Bien sûr.
Il y a des cultures suivant des pays. Le soccer aux États-Unis est un sport féminin.
Non. C'est devenu parce qu'elles ont gagné.
Oui, mais parce que le soccer masculin n'a jamais été le sport roi. Non, nous en France, en Europe, le foot c'est un sport roi. Le foot, c'est un sport.
Mais parce que c'est incarné par des icônes. Là, le basket féminin aux États-Unis, ça devient monstrueux. La WNBA, elle devient monstrueux.
Pourquoi?
Kathleen Clark.
Oui, il y a Kathleen Clark, mais pas que parce que t'as le produit. Je suis d'accord avec toi, avec les athlètes.
Mais là, on parle d'un sport qui est professionnalisé.
Voilà,
avec du marketing autour.
T'as des mecs qui ont envie d'investir. C'est ça, la vérité derrière les franchises.
Mais parce qu'elle gagne aussi chaque fois une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Je peux parler de toutes ces franchises WNBA. Derrière, c'est parce que t'as des gens qui ont envie d'investir, qui croient au sport féminin et qui ont envie.
C'est du sport professionnel. Enfin, je pense qu'on peut pas. Il faut pas qu'on compare la NBA, la WNBA avec des équipes nationales. De toute manière, la NBA et la WNBA, c'est au-delà de l'entendement puisque ce sont des franchises et c'est des investisseurs privés. Comparons ce qui est comparable. J'ai pris l'Espagne où tu as une équipe nationale qui est ultra performante chez les hommes et récemment, l'équipe nationale espagnole féminine, elle peut peut-être faire un triplé avec la dernière Coupe du Monde, la Ligue des Nations et peut-être ce championnat d'Europe. C'est là qu'on pourrait comparer, voir effectivement si le foot féminin peut avoir une reconnaissance d'égal à celle du foot masculin dans un territoire, dans un continent où le foot reste le sport roi. Et aujourd'hui, tant que les filles n'auront pas, elles sont vierges de titres, tant qu'elles n'auront pas un titre, la reconnaissance, elles auront la reconnaissance des résultats qu'elles font aujourd'hui. Alison, je vais te poser une question. Votre premier titre de championne du monde, c'est en 2003 que vous le décrochez,
ouais,
c'est ça?
Complètement.
Les hommes, ça a été en 95. Mmh. Ok. Est-ce qu'entre 2003 et 2016, là où vous avez véritablement explosé, est-ce qu'entre 2003 et 2016, vous avez eu de la reconnaissance?
Non, on n'en a pas eu.
Ou est-ce que c'est arrivé après?
C'est arrivé après.
Parce que vous les avez enchaînés, ces titres.
Non. Alors attends, je te refais la genèse. Donc, on a été deux fois vice-championne du monde, hein, en 2009 et en 2011. Donc, la reconnaissance, on l'a pas eu, alors qu'on a joué quand même deux finales. On a certes pas été championne du monde, et les gens ne se souviennent que des champions ou des championnes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En 2016, on remporte notre première médaille olympique de l'histoire, du handball féminin. Est-ce qu'il y a eu un vrai tournant? Non. Le tournant, il est venu après, quand on a été championne du monde, du coup, pour la deuxième fois, en 2017. Et où est-ce que tu places justement championne du monde et vice-championne olympique? Ouais. C'est ça la vérité, parce que quand tu dis ouais je suis vice-champion olympique, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, tu dis putain le truc il doit partir, ça doit y aller, et finalement ça s'est pas du tout passé comme ça. La réalité c'est que on a fait vice-champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, on s'est foiré en 2019 et après on a été champion olympique. Donc la réalité c'est ça a été dans la régularité, ouais, la répétition justement des titres, et c'est là que ça a commencé à partir. Les garçons ont fait champion du monde en 2017 aussi. Derrière, quelques années un peu difficiles, ils ont fait quatrième place, troisième et tout, etc. Mais malgré tout, ça a été dur. Il faut cravacher. Mmh. À chaque année où on se ramasse, où on fait pas un podium, où on n'est pas
en demi-finale, tu redescends de quelques étages.
Voilà. Alors que les garçons, c'est pas comme ça.
Et ben justement, est-ce qu'elles sont redescendues de quelques étages, Anthony Reich? Parce que moi, je me souviens quand même d'un engouement pour l'équipe de France, notamment quand il y avait eu la Coupe du Monde en France, Anthony.
Ouais, mais c'est là où le virage a été complètement manqué. C'est en 2019, lorsqu'on organise la Coupe du Monde, on devait gagner. On n'a pas gagné. Derrière, la fédération n'a pas surfé sur l'engouement. Je vous rappelle que les stades étaient pleins, craqués, elles faisaient
du super. On nous a forcé. Laisse-moi finir.
La fédération n'a pas surfé sur cet engouement-là. La Ligue de football professionnel a été lancée seulement il y a un an. Il y a 5 ans après la Coupe du Monde. Donc il y a eu une baisse de licenciés. Et n'oubliez pas quelque chose, entre 2019 et 2023, l'air diacre a fait beaucoup de mal à l'image de l'équipe de France. Oui. On entendrait parler majoritairement de l'équipe de France et des Bleus pour des embrouilles, des guéguerres, des problèmes. Et ensuite, l'agression de Kera Amraoui. N'oubliez pas ça. L'agression de Kera Amraoui, pour l'image du grand public, a ajouté aussi une ombre très forte à cette belle
Anthony, moi je me fais l'avocat du diable. C'est pas brillant cette histoire, mais ça a aussi intéressé des gens qui ne s'intéressent pas au football féminin et qui se sont dit ah bah dis donc, il se passe des trucs dans les vestiaires.
Ah oui,
dans des sports, d'autres sports qui n'intéressent pas grand monde, dès qu'il se passe quelque chose hors du terrain, des histoires de rivalité, tout ça, il y a le grand but. Moi, j'irais même plus que après Corinne Diacre, je pense que il y a eu une erreur aussi de vouloir personnifier
avec Hervé Renard.
Ben bien sûr, parce que Hervé Renard, t'en fais un phare. Tu ne parles que d'Hervé Renard, que de Hervé Renard et ses joueuses, les choix d'Hervé Renard, c'est fabuleux. Regardez un tel entraîneur qui se consacre au football féminin. Mais tant que on demandera aux gens de s'intéresser au football féminin avec un pistolet sur la tempe, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut créer une histoire, il faut créer des souvenirs, et ça commence ce soir par une revanche. Éventuellement face à l'Allemagne, parce que si France-Allemagne en football féminin peut devenir un semblant de rivalité comparable à celle qui existe dans le football masculin, et ben là ça peut
gagner
commencer
effectivement ce soir. C'est ce qu'on disait, voilà. Julien, très rapidement.
Sur ce que disait Anthony sur 2019, il y a une erreur, c'est là où ils ont loupé le virage. Ils ont fait une erreur de com, la Fédé, c'était on devait gagner, déjà on n'a jamais été plus fort que les États-Unis. Ils avaient dit comme objectif il faut faire demi-finale, sauf que le tableau te met contre les États-Unis en quart de finale.
Ah, oui,
donc à partir du moment où tu perds contre les États-Unis mais que tu sois en quart en demi au final, ils sont plus forts que toi. C'est pas le résultat en lui-même, c'est après le contenu, comment ça se passe. Et ils ont considéré que c'était un échec et derrière l'image elle a plongé.
Alors on va remercier Anthony, bon match ce soir. Nous on va le suivre ce match évidemment en direct sur
RMC. Évidemment.
Tu seras avec Simon Dutin qui revient ce soir pour
Laure Le Payeur.
Toute l'équipe
évidemment.
Et Laure Le Payeur que l'on salue qui sera là ce soir pour, on l'espère, une qualification en demi-finale. Et on en reparlera demain dans les grandes gueules du sport de ce match. Qu'il y ait victoire ou défaite, bien sûr, on espère commenter une victoire demain. Merci beaucoup, Anthony. Le rugby, rapidement, Romain Asselin, comment ça se passe pour l'équipe de France en Nouvelle-Zélande?
C'est plus compliqué, on a atteint l'heure de jeu et les Blacks sont passés devant pour la première fois du match. Et c'est il y a quelques instants de Kirifi. 22 pour les Blacks, 19 pour les Bleus qui sont devant la ligne d'en but de la Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis le début de cette seconde période. Il y avait une situation d'essai pour Gaëtan il y a quelques instants, il n'a pas pu aplatir et ils sont pénalisés les Bleus, on a doublé le compteur pénalité, on est à 10 pénalités désormais en seulement quelques minutes, voilà on est dans le dur, il faut serrer les fesses là pour le coup, mais peut-être un petit signe du destin. Tiens, j'ai vu un coq se promener sur la pelouse du FMG Stadium il y a quelques instants, faut y croire. Encore 20 minutes, 3 points de retard pour les Bleus qui sont menés 22-19 par les Blacks.
J'espère qu'il est protégé le coq, j'espère qu'il s'est enfui quand même parce que ça fait peur. Vaut mieux pour lui. Allez, on se retrouve évidemment, Romain, pour la suite et la fin de cette rencontre. Vous restez avec nous dans un instant. La punchline des GG aujourd'hui, elle est signée Kevin Mayer. On en parle tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Simon Dutin, Alison Pinot, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau. Ce matin dans les grandes gueules du sport, dans un instant, ce sera les GG contre-attaque. Et pour l'instant, au point classement, c'est Sarah qui domine avec son sujet, évidemment, sur Kylian Mbappé. 38%, 32%, il suit juste derrière Julien Beneteau. C'est pas terminé.
Absolument.
Avec son débat sur les déclarations de Fabien Galthié. Puis Simon est bon dernier pour l'instant, 30%.
On est en train de remplir le contrat, tranquillement.
Voilà. Tranquillement, il va pas se fouler encore ce matin. Allez, encore quelques minutes pour voter sur le compte X des GG du sport. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline GG. Elle est signée Kevin Mayer ce matin.
RMC, la punchline GG.
La réunie aujourd'hui, c'est pour annoncer ma saison blanche 2025. La décision d'arrêter cette saison, ça a été aussi parce qu'on s'est rendu compte que j'ai beau ne pas m'en rendre compte, la blessure de Paris était très grave. Et mentalement comme physiquement, je suis encore en état de choc.
Kevin Mayer, c'était donc cette semaine lors d'une conférence de presse, blessé depuis juillet 2024 aux ischios. Le décathlonien a déjà raté les Jeux l'année dernière. Il refuse l'opération pour l'instant, depuis 15 jours. Il dit « j'essaie une méthode qui semble plutôt bien fonctionner. C'est ma philosophie, je ne veux pas me faire opérer. » Alors, est-ce que vous croyez à un retour au plus haut niveau? Oui ou non? Julien Beneteau.
Ça va être difficile. Par contre, je ne savais pas qu'on venait à des conférences de presse pour annoncer une dernière blanche.
Bon, tu en parleras dans un instant. Alison Pinot.
Oui, mais ça va être compliqué.
Simon Dutin.
Non.
Sarah Pitkowski.
Ouais, bah, je suis sur le non aussi. Hein.
Alors, il explique qu'il peut faire du tennis, du golf sans gêne, mais dès que l'intensité monte, c'est compliqué, impossible pour lui de faire un 100 mètres actuellement. Mais malgré tout, vous allez l'entendre, et après je vous donnerai la parole, à 33 ans, il ne veut pas entendre parler de retraite, et il vise même les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Écoutez.
L'objectif, c'est de guérir. À partir du moment où j'aurai guéri, je sais que d'atteindre un bon niveau et d'être médaillable au JO, ce ne sera pas un problème. Ma problématique dans ma carrière, ça a toujours été la blessure, c'est la même. Ça prend plus de temps que d'habitude. Et voilà, c'est la première saison blanche, c'est la première année où je vais pas porter le maillot de l'équipe de France, c'est plein de choses comme ça. Mais d'un point de vue optimiste, je sais très bien qu'à partir du moment où je règle ça, ben, je reviens comme avant.
Je reviens comme avant, Alison. Déjà, c'est bien, bravo pour ta première. Tu as pris un risque d'être seul face à la meute des GG. Tout le monde n'a pas ce courage, je ne citerai personne. Tu as dit oui, toi, tu y crois quand même, ou tu as envie peut-être d'y croire.
Oui, parce que tu sens qu'il a la flamme, tu sens qu'il est habité par le truc, mais la difficulté, c'est son corps. Donc là, il fait saison blanche, parce que je pense qu'il sait que s'il retente, probablement, il n'échappera pas à l'opération. Ça sera sans doute le seul recours qui pourra prendre pour vraiment guérir. Voilà, il a 33 ans, il n'est pas fini. Il faut arrêter d'enterrer à chaque fois les sportifs quand ils traversent un moment de doute, etc. Même si ça fait un petit moment, il s'est blessé à Paris, il n'a pas fait les Jeux, etc. Je pense que le mec, le jour, tout va bien avec son corps, il va avoir la dalle, il va avoir envie de se prouver des choses à lui-même.
Ça s'est pas arrivé souvent, Alison, qu'il ait le corps parfait, même quand il s'est présenté aux différents Jeux de Londres et de Rio, où il a brillé, où il était vice-champion olympique. Il a toujours eu des pépins physiques.
Ouais,
alors, est-ce que c'est sa discipline ou est-ce que c'est l'athlète en lui-même? Je suis pas spécialiste pour répondre.
C'est peut-être les limites de son corps, mais ça, il y a que lui qui le sait finalement. Donc, il veut pas entendre de parler de retraite. C'est que sans doute il a des raisons propres à lui-même et qu'il y croit encore. Donc,
Toi, t'as envie d'y croire, effectivement.
Ouais, moi, j'ai envie d'y croire parce que c'est un énorme champion et qu'il faut pas
l'enterrer. Il était déjà revenu, quand même, après des blessures.
Plusieurs
aussi,
fois.
Hein,
voilà.
Il l'avait prouvé,
Après, on sait que Kevin, c'est un entêté. Donc, tant qu'il n'ira pas au bout de ses idées, bah, il verra pas l'autre solution en face. Donc, on va voir.
Julien.
Non, mais qu'il ait envie d'y croire et qu'il se persuade qu'une fois que son corps ira bien, il peut revenir au haut niveau. Oui, ça, c'est possible. Le truc, c'est que, donc là, c'est saison blanche cette année, mais l'année dernière, il a pas fait non plus, il a couru pour être prêt pour les JO de Paris. Il a tout fait. Il a une énorme déchirure à un moment donné. Il a fait tous les soins possibles imaginables. Moi, on m'avait dit, parce qu'il était suivi par un des gars qu'on connaît, que c'était perdu. Enfin, que c'était médicalement pas possible. Il espérait un miracle
pour être au jeu,
que ça n'a pas eu lieu, que derrière, du coup, il a pas non plus trop concouru. Donc, en fait, pratiquement, ça fera deux saisons blanches. C'est ça qui, moi, qui m'inquiète le plus. C'est que ces deux ans, son âge, son corps, oui. Le fait, c'est pour le haut niveau, parce que lui, il parle de Los Angeles 2028, et quand il parle de redevenir compétitif, à Los Angeles, il vise une médaille. C'est deux saisons.
Et à quel âge? Il aura 40 ans.
Il y a l'âge. Mais c'est deux saisons blanches là, dans le process pour aller à Los Angeles. C'est en ça, moi, je me dis que ça va quand même être difficile pour lui.
Simon, après, en plus, c'est vrai qu'il a une discipline très exigeante.
C'est la discipline la plus exigeante du monde, d'autant plus que il y a affiché, lui, une polyvalence qui était un petit peu révolutionnaire, c'est un bien grand mot, mais j'ai peur que le prime soit derrière lui. Les périodes de domination d'un seul athlète en décathlon, c'est rare que ça s'étale sur une décennie. Le précédent, tu vois, mal alpha du décathlon, c'était Ashton Eaton. Il est deux fois champion olympique, deux fois champion du monde. Bon, sa période de domination, elle s'est étalée sur quoi, cinq ou six ans. Voilà, Kevin Mayer, c'est un athlète exceptionnel, mais malheureusement, il est rattrapé par les blessures. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas dépassé les 8800 points, c'est-à-dire qu'il est quand même très loin de son record du monde. Il y a une nouvelle génération, notamment des Canadiens qui arrivent et qui sont les nouveaux Kevin Mayer. Donc évidemment qu'on a envie d'y croire, parce que c'est un mec super, avec les médias, il est super, il est positif, il s'ouvre vraiment plus sur ses failles, sur les blessures qu'il a psychologiques et physiques.
Julien trouvait ça surprenant quand même qu'il fasse une conférence de presse pour ça.
Mais
tous les athlètes quand ils sont blessés,
de son propre aveu, il a du mal à se mobiliser mentalement pour autre chose que les très gros rendez-vous. Et j'ai peur que ce manque de compétition
chronique,
ce soit compliqué. Voilà, d'aller chercher une médaille à Los Angeles.
On l'a souvent reproché. Ce sera d'autant
plus magnifique.
D'écouter un peu trop son corps aussi. Alors bon, là, c'est des
réelles blessures.
Là, c'est des réelles blessures, mais c'est quelque chose que on
c'est
lui pas reprochait
Whittaker
parfois.
Qui déclare forfait à Paris, ou que là ils disent je peux rien faire cette année. Donc c'est dur, quoi.
Alison, toi, t'as connu des blessures comme ça qui t'ont stoppé? Non, pas vraiment.
Pas comme ça, pas au point de faire une saison blanche. Je vais dire, je joue pas de la saison. Non, moi, je me suis fait. J'ai eu trois opérations quand même dans ma carrière.
Ah, ouais, quand même.
Ouais, c'est.
Elle dit pas tant que ça, mais ouais, c'est quand même trois opérations.
Ça va. J'ai eu les croisés à 6 mois des Jeux de Londres. J'ai fait une course à la montre. Et ça n'a pas été simple psychologiquement de dire, il y a les jeux qui arrivent. Et quand tu sais que 4 ans auparavant, t'as dit, ma cocotte, on t'a passé flambeau, maintenant c'est à toi. Bah, je peux te dire que t'as une pression énorme, mais jamais de saison blanche comme ça. Mais c'est sûr que c'est des gros moments de doute. Et surtout, la bataille avec ton corps, c'est le plus redoutable pour un athlète. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus dur, parce que des fois t'as la motivation, t'as l'envie, t'es positif et tout, etc. Mais à un moment, ton corps il te dit désolé, là je pense que t'as poussé les limites trop loin, et je peux pas te donner plus. Et ça, c'est une réalité, malgré que tu veuilles l'accepter ou non. Mais c'est pas pour autant que je vais enterrer Kevin Mayer.
Et tu n'as pas fait de conférence de presse à l'époque où ça
non,
ne
pas
rappelle
du tout.
Rien. Le rugby, Romain Asselin, France Nouvelle-Zélande. Allez, on croit encore à l'exploit, Romain, fais-nous vibrer.
Ah, c'est toujours aussi serré, hein. 22-19 pour les Blacks. Il va rester 8 minutes avant la sirène de cette deuxième mi-temps. Mais franchement, c'est très compliqué, hein, pour les Bleus qui ont fait une première période franchement fantastique. En deuxième mi-temps, ça subit, ça plie, ça ne rompt pas totalement, parce qu'il n'y a eu qu'un seul essai pour les Blacks en deuxième mi-temps, mais qui a permis à la Nouvelle-Zélande de passer devant au score. Et ils sont en train encore de faire le forcing dans les 22 mètres adverses, avec un ballon à 15 mètres face aux perches. Est-ce qu'il y aura une tentative de drop? Il y en a eu une il y a quelques instants à 50 mètres. C'est passé à droite avec ce ballon qui va être relevé, et la percussion là à l'instant de George Bauer. Et ils sont en train de nous étouffer, les Blacks, les Bleus, qui sont admirables en défense, à l'image du Lyonnais Michael Guillard, qui fait un match mais alors exceptionnel. Mais le problème, c'est que à force de subir les coups de boutoir, les Bleus vont finir par craquer. Il y a eu deux énormes erreurs défensives de Léo Barré. Pour l'instant, ça tient, mais que 3 points d'avance pour les Blacks, 22-19, il reste 7 minutes.
Et il y a plein de petites décisions arbitrales quand même qui sont contre nous. Est-ce que c'est justifié à ton avis ou pas?
je sais pas, tu penses là sur les dernières pénalités, ouais. Notamment Gailleton qui aurait pu obtenir un contest peut-être, mais en même temps, pour donner un peu de matière, si jamais t'arrives à faire ta contre-attaque tout à l'heure sur le coup de pression de Galtier sur
l'arbitrage. C'est pour ça qu'il te parle d'arbitrage.
Bah, ouais, ils ont pas encaissé d'essai sur la vidéo tout à l'heure. D'accord, tu vois, bon. Là, c'était litigieux.
Bon. Là, ça, je sais pas si c'est homologué, non, ça quand même. Ouais. La tentative pour faire voter les gens pour ta contre-attaque.
Ça sert à rien. Je suis devant.
Derrière Mbappé, ça me va très bien.
On verra ça dans un instant. Vous pouvez encore aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Le résultat, c'est dans une minute sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport. RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Merci beaucoup d'écouter RMC ce matin. Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Julien Beneteau, Alison Pinot. Pour sa première, qui s'en sort très bien. Bravo, je voulais te féliciter à presque mi-parcours. Il y a encore un peu de temps quand même, mais voilà, tu es parfaitement dans le rythme. Et merci beaucoup d'entrer dans la grande famille des GG. On retrouvera notre Dream Team Vélo dans un instant pour parler des performances françaises sur le Tour. Est-ce qu'on peut s'en contenter pour l'instant, 32-16, pour nous rejoindre? Mais on suit également le rugby, parce que c'est bientôt la fin de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la France, Romain Asselin.
Et l'exploit paraît improbable désormais pour les Bleus qui viennent d'encaisser un nouvel essai. Ils avaient tenu très longtemps, mais ça a fini par s'ouvrir avec Dimac, Damien McKenzie qui a trouvé l'ouverture avant de remettre à l'intérieur à son talonneur Brody McAllister, qui s'est fait mal, hein, mais qui a réussi à plonger et terminer sa course dans l'embut, résister à Gaël Ficou. 29-19 avec la transformation, 10 points d'écart et il reste seulement 3 minutes. Il faudrait marquer tout de suite pour les Bleus qui vont peut-être avoir un ballon à jouer dans le coin adverse, mais on rappelle qu'ils menaient 19-17 à la pause. Non, pas inscrit le moindre point depuis le retour des vestiaires. 10 points d'avance pour les Blacks à 3 minutes de la fin.
Allez, on se retrouve évidemment pour la fin de cette rencontre, mais d'abord, c'est le moment pour les GG de prendre les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Alors je le rappelle, Alison Pinot est exemptée pour aujourd'hui, mais elle entrera dans la danse demain avec un débat. Vous étiez 3 à pouvoir gagner. Eh bien, c'est Sarah Pitkowski qui s'impose devant Julien et Simon. 38% pour ton débat. Simon et Julien, 31% tous les deux. Voilà,
vous êtes à égalité. Est-ce qu'elle va manquer de reconnaissance ou pas?
Bon, on va voir. Sarah, on t'écoute. Tu voulais parler donc de la dernière affaire en date concernant Kylian Mbappé.
Oui.
Qui aurait donné des primes à des policiers.
Oui, alors c'est pour avoir votre avis, parce que effectivement ce sujet déclenche des vagues de commentaires sur la toile. Alors la générosité d'Mbappé, on sait qu'elle est plus approuvée, et depuis qu'il est en équipe de France, on le sait, mais on le dit peut-être pas assez, il reverse systématiquement 100% de ses primes qu'il touche sous le maillot bleu à des associations. Alors, des associations comme Premier de Cordée ou sa propre association, c'est Inspired by Kiem. Et il donne même aussi à l'anciennement Fondation Abbé Pierre. Et là, on révèle en fait que suite à la Coupe du Monde 2022, il aurait versé aussi une partie de cette prime à des CRS qui assuraient la sécurité des Bleus. Donc en fait, il faut savoir que ce sont des CRS qui sont détachés auprès de la Fédération Française de Foot et donc détachés derrière auprès de l'équipe de France. Ça a été fait, semble-t-il, légalement annoncé. Vous pensez bien que, enfin, je me doute bien que l'entourage de Mbappé, à partir du moment où il verse des primes à des fonctionnaires, il le fait pas sans conseil juridique ou même avec le conseil de ses avocats. Et je suis étonnée qu'aujourd'hui on mette ça en exergue, on vient de chercher quelque chose qui date de 2022. Et encore, et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, comme il a fait des déplacements à l'étranger en tant que capitaine de l'équipe de France et qu'il était accompagné par une de ces 5 personnes pour sa sécurité sur ses déplacements à l'étranger,
Ça aurait été pour le privé, hein, au Cameroun et dans le Vaucluse.
C'est dit que c'était sous couvert du, en tant que capitaine de l'équipe de France.
Mais
donc, la fédération a peut-être mis à disposition une sécurité pour le capitaine de l'équipe de France. Mais ça, c'est intervenu après. C'est intervenu en 2023. Ouais. Ces primes ont été versées en 2022.
Les
en tout cas, je m'interroge.
Ont été mis en juin 2023, pour être exact. Et c'est en juillet 2023 qu'il y a eu ces deux déplacements qui sont dans le viseur des enquêteurs.
En tout cas, moi, je m'interroge sur le fait. Mais ces primes ont été versées
oui,
avant.
Oui, c'est les primes de la Coupe du Monde 2022.
De la Coupe du Monde 2022. En tout cas, je m'interroge sur le fait qu'on remette ça en cause et qu'on vienne chercher des, pas des poux, mais autant on fait pas des on n'en fait pas des caisses sur le fait qu'il reverse systématiquement ses primes. En revanche là, on vient chercher et on vient enquêter là-dessus et puis on en fait des tonnes. Ouais. Voilà.
Toi,
et je m'interroge parce que au-delà, on peut lui conférer beaucoup de reproches à Mbappé, mais sur sa générosité, je pense qu'il a jusqu'à maintenant été exemplaire. Voilà. Et je voulais avoir votre avis là-dessus.
Alors Mbappé se justifie, enfin le clan Mbappé se justifie en disant que ce sont des dons pour des gens qui sont très importants dans l'encadrement de l'équipe de France. Hein. Les gens de la sécurité sont des gens avec qui les joueurs ont des rapports très proches, hein, de proximité véritablement.
Oui, moi, je suis sur la ligne de Sarah. Fichez-lui la paix.
Alors, il y a deux enquêtes, quand même. Hein. IGPN, la police des polices, et une enquête du parquet de Paris.
Voilà, la CIA, bientôt. fichons-lui la paix. Ouais. On est suffisamment sévère avec lui. On est tout le temps sur son dos. Encore une fois, on en revient à la force de l'émetteur. Hein. C'est une méga star planétaire. Ouais. Donc, évidemment, tout ce qu'il fait prend une dimension. Ouais. Voilà, et on a besoin de Mbappé. Ouais. Regarde, Sarah a besoin de Mbappé pour gagner
les contre-attaques. Mais c'est stratégique.
Et les médias se nourrissent de Kylian Mbappé. Donc, tu le soulignes, ce sont des institutions très sérieuses. Mais j'ai du mal à croire, au-delà de l'appétit médiatique et populaire pour tout ce qui concerne Mbappé, j'ai du mal à croire que quand tu es Mbappé
tu sois
assez stupide pour pas dire autre chose pour aller dire ah ouais c'est vrai le mec qui m'a accompagné tu deviens copain avec un mec et tu dis bah ça te dérangerait de m'accompagner et tout bah tu au pire tu vas le payer au black tu vas le payer en liquide
parce que là ça a été fait légalement il a émis des chèques.
Donc je veux dire s'imaginer que tu peux laisser la moindre trace de paiement illicite ou pour service privé, je pense que c'est absolument
complètement, ça m'exaspère. On ne sait pas quoi raconter à son sujet, donc on essaie de creuser pour trouver un sujet pour parler de Kylian Mbappé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. C'est comme l'a dit Simon, on lui cherche déjà assez de poux comme ça. On est déjà assez sévère et strict avec lui constamment. Là, on parle de sa générosité.
La question, c'est de savoir si des gendarmes et donc des gens qui ne sont pas censés justement toucher de l'argent dans un cadre privé. L'enquête est là-dessus.
Oui, mais il a dit lui-même que c'était aussi une manière de valoriser, c'est-à-dire le travail de sécurité.
Que ce soit des agents privés, ça c'est pas un problème, mais là ils ne sont pas privés. Voilà.
Oui. Ça, c'est pas l'affaire d'Mbappé.
Et puis il n'est pas interdit de penser que ça a suscité des jalousies dans la corporation et
c'est très français
dans les services et voilà
manière,
et quoi, les mecs qui nous on se tape la sécurité dans les villes ou je sais pas quoi tu vois des trucs peut-être un peu moins sexy que la sécurité de l'équipe de France les mecs en plus ils se font rincer par des grosses primes machin donc des jalousies vous êtes sûr que Patrick il est pas allé aider Mbappé dans son déplacement privé machin non mais je veux dire on peut tout imaginer mais je veux dire a priori
tout le monde était d'accord avec toi tu vois Sarah donc tu as gagné mais tu n'as pas lancé forcément un débat mais au moins tu as dit ce que tu voulais dire ce matin sur
donc j'ai gagné deux fois
ça aurait été quelqu'un d'autre on n'aurait même pas parlé
on va le suivre quand même cette affaire parce qu'il y a des enquêtes ouvertes donc on verra ce que ça donne les enquêtes il y aura forcément un résultat moment donné. Romain Asselin, c'est terminé pour l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Troisième et dernier match de la tournée des Bleus.
Qui se conclut par une troisième défaite. On y a cru les GG longtemps dans ce match. Mais défaite 29-19. Les Bleus ont fait une première mi-temps de rêve. Ils menaient 10-0, puis 19-17 à la pause. Et finalement, pas de points inscrits en deuxième mi-temps. Ils ont trop subi. Les Blacks ont tué le suspense à 4 minutes de la fin en marquant un dernier essai. Trois défaites de suite. C'est une première pour le sélectionneur Fabien Galthié dans son mandat. Et la dernière fois, c'était en 2018, ici même en Nouvelle-Zélande, lors de la tournée estivale. On restait sur trois victoires face aux Blacks, trois défaites désormais sur le sol néo-zélandais, mais tout n'est pas acheté parce que franchement le réservoir des Bleus, on sait qu'il y a eu des débats, on n'est pas venu avec les joueurs premium, mais ils ont montré des très belles choses et se sont peut-être positionnés pour le futur aussi.
On en reparlera évidemment dans les grandes gueules du sport de cette tournée néo-zélandaise et puis toutes les réactions à retrouver aussi sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Romain, à très bientôt sur RMC. Les GG qui reviennent tout de suite, elles passent la seconde pour aller sur les route du Tour de France. Peut-on se contenter des performances françaises actuellement sur ce Tour 2025? 32-16 pour nous rejoindre et on retrouvera Jérôme Pinault avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.